Divergence FM, l'interview.
Divergence, on prend des nouvelles du SCUM. Alors le SCUM, pour ceux qui ne savent pas, ben, je vais demander à Gabriel, mon invité, d'expliquer qu'est-ce que c'est le SCUM.
Alors le SCUM, on est un syndicat étudiant à Montpellier. Donc SCUM, ça veut dire Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier. Donc ça montre un petit peu notre côté combatif, parce qu'on prône un syndicalisme qui se
actif,
veut...
Actif, on va dire. Hein.
Actif et combatif.
Et combatif. Hein.
Parce que les droits étudiants se font de plus en plus... attaquer, donc il faut être là pour répondre et faire bloc face à toutes les attaques qu'on subit.
Et puis je crois, pour connaître quand même le SCUM très bien, pour vous avoir reçu de nombreuses fois autour de cette table, vous avez gagné en notoriété énormément. Au début, c'était un petit syndicat, le SCUM, hein, et puis maintenant, vous êtes devenu le syndicat majoritaire dans de nombreuses universités, je crois.
Hein. Et oui, c'est ça, bah, dans toutes les universités de Montpellier, il y en a deux, à Paul Valéry un peu plus, et à l'université de Montpellier aussi, ça se construit petit à petit, donc ouais, tout à fait. Alors, à l'université de Montpellier, on a la chance d'être le seul syndicat. En tout cas, ça nous permet d'avoir plus de marge et d'être important. Et à Paul Valéry, on est aussi majoritaire. Oui.
Et puis même, vous avez réussi, je crois, aussi à conquérir des terrains improbables comme le droit.
Le droit, ouais.
Là, c'était tout à fait improbable, hein, parce qu'on avait toujours dit le droit, c'est l'extrême droite, en principe.
Alors, oui, je suis justement étudiant à la fac de droit, moi, et c'est vrai qu'on a réussi à faire des trucs sympas. Alors, on dit souvent, oui, que les étudiants en droit sont beaucoup de droite.
C'est ce qu'on dit, hein, c'est un peu facile. Hein.
Alors, c'est un peu facile. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les principaux militants de droite, voire d'extrême droite, sont à la fac de droit.
Et sont actifs.
En tout cas, on les voit plus que dans d'autres universités, mais quand on parle avec les étudiants, en général, ils sont quand même plutôt progressistes et ouverts à d'autres choses. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont beaucoup moins politisés qu'à la fac de lettres, c'est ce qu'on observe.
Bien sûr, oui. Ben écoutez, on est ravis. En tout cas, moi, ça m'avait surpris quand j'avais vu le résultat des élections. Je lui ai dit, ça, alors là, il y a des bastions qui commenceraient à vaciller. Alors, on va parler de ce que vous faites. Alors, très rapidement, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau pour en parler de façon plus précise. Mais les derniers combats, c'était, je crois, l'augmentation des loyers au CROUS. Et puis, c'était les congés menstruels. Hein.
Oui.
C'est les derniers combats. Hein.
C'est ça. Bah alors, pour l'augmentation des loyers, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 3 ans, le CROUS, mais bon, ça vient d'un ordre national des CNUS, Conseil national des œuvres universitaires et scolaires, qui vient du gouvernement, bien sûr, augmente en fait les loyers des cités universitaires, donc des chambres au CROUS. Et donc, depuis il y a 2 ans, c'était déjà 3,5% à peu près, encore l'année dernière 3,5%, et cette année, c'est 3,26%.
Donc, ça fait beaucoup.
Et donc,
en gros, ça fait 10%, quoi,
oui,
sur 3 ans.
C'est ça, sur à peu près, même si les pourcentages ne peuvent pas s'additionner, mais ça fait, pour une chambre de 9 mètres carrés, c'est 10 euros en plus chaque mois, mais bon, depuis 3 ans, donc ça fait 30 euros par mois en plus, et à la fin de l'année, bah, ça fait 300 euros.
Ça fait beaucoup. Voilà. Ça fait de l'argent.
Budget,
et puis, comme on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont précaires. Hein,
et oui.
Et puis aussi, il y a eu les problèmes aussi de trouver des jobs. C'est difficile quand on est à la fois étudiant et qu'il faut trouver un job pour se payer.
Alors oui.
Sa chambre au CROUS, par exemple.
Non, mais déjà, nous, on défend le fait que ça ne doit pas être normal de travailler en parallèle de ses études, parce que c'est forcément facteur d'inégalité par rapport à ceux qui ont les moyens de ne pas travailler. On souhaite que tout le monde puisse vivre ses études. Pleinement, quoi. Et le temps de réviser de la même manière que tous les autres. Parce que c'est...
Oui, et je crois que vous prenez peut-être un revenu minimum étudiant, non ? Des
Alors,
choses comme ça ?
Nous, on prenne une réforme de la bourse pour qu'il n'y ait plus aucun étudiant qui se trouve sous le seuil de pauvreté qui est à peu près à 1100 euros.
Oui, c'est ça,
euros.
1100 euros pour une personne.
C'est ça, parce que les loyers sont super chers et la vie étudiante ne cesse d'augmenter, quoi.
Puis on a parlé du CROUS, mais bien entendu, dans le parc privé de Montpellier, c'est hors de prix. 700 euros dans un petit studio, c'est ça?
Dans les beaux quartiers, 700 euros, mais rien que dans notre quartier, 400, 500 euros parfois.
C'est trop.
Et ça représente 2/3 en général du budget d'un étudiant, le loyer. Donc forcément, quand il représente de telles sommes, à la fin du mois, après avoir payé la nourriture et tout ce que demande l'université, parce qu'il y a des livres à acheter, il y a un ordinateur à renouveler parfois, c'est compliqué.
Et il y a des frais d'inscription aussi, ou alors pour les boursiers, c'est pas le cas?
Alors, les boursiers sont exonérés des frais d'inscription, mais il y a quand même, pour les non-boursiers, 170 euros par an en licence, il me semble que c'est un peu plus en master, et la taxe s'évêque tous les ans, qui est à 103 euros en ce moment, qui a augmenté elle aussi, et qui a été introduite en 2018 par la loi ORE, et en fait, cette taxe, elle vise à financer des activités étudiantes à l'université, mais nous, on pense que ce n'est pas du tout aux étudiants
eux-mêmes de payer
voilà,
ça.
Voilà, ça prouve un désinvestissement de la part de l'État et c'est un gros problème. Et je note aussi que les étudiants étrangers payent beaucoup plus les droits d'inscription. Et ça, c'est aussi un problème quand on sait qu'ils ont des difficultés d'accès aux aides sociales et que c'est encore plus compliqué pour eux. C'est plusieurs milliers d'années pour les étudiants étrangers.
C'est vraiment très compliqué.
Plusieurs milliers d'euros, pardon.
De toute façon, on a compris, c'est global tout ça. C'est le problème de la politique gouvernementale de façon générale sur l'enseignement supérieur,
oui, hein,
qui est à mettre en cause. Et puis, il faut gratter à chaque fois. C'est ça qui est terrible. On a l'impression qu'on a acquis quelque chose, ben non, c'est jamais acquis, il faut y retourner, il faut remettre à plat avec l'université, avec les différents partenaires. C'est vraiment un combat permanent.
Oui,
hein.
Oui, tout à fait. Ben, vous disiez que le gouvernement avait son rôle, mais moi je tiens aussi à souligner le rôle des présidents d'université et qui sont souvent des professeurs et qui, même s'ils subissent entre guillemets les coupes budgétaires de la part du ministère de l'enseignement supérieur, parfois ne vont pas très loin, ne font pas assez d'efforts, nous on trouve, pour ouvrir des places dans des formations quand il y a des places qui sont supprimées. Et là on le voit, qui a voté l'augmentation des loyers au CROUS, c'est les membres du conseil d'administration du CROUS, dont font partie des présidents d'université, un représentant de la municipalité, M. Christian Assaf, qui vote par délégation de Mme Dalga.
C'est lui qui est représentant de la municipalité, voilà, etc. Ouais. Alors, écoutez, on a très peu de temps, donc j'aimerais parler quand même de votre combat sur le congé menstruel. Ouais. Ça, c'est un combat que vous menez depuis quelque temps déjà.
Ah oui, effectivement. Oui, oui,
et où ça en est où, alors ?
Alors, ça en est où ? Donc, on a deux situations différentes pour deux universités à Montpellier. À l'université Paul Valéry, on est implanté depuis plus longtemps. On a pu, l'année dernière, faire passer une motion qui visait à établir le congé menstruel, c'est ça. Et ça a pris un peu de retard parce que les services ont dû refondre tout le système d'absence. Mais on a eu une commission il y a quelques jours avec l'université pour décider de la mise en œuvre effective de cette mesure à la rentrée prochaine. Et donc, ça va rentrer en vigueur à la rentrée prochaine avec 10 jours par an d'absence.
Et ça, c'est quand même une sacrée victoire, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, hein, qui n'existait pas.
Alors, qui n'existait pas du tout dans d'autres universités.
Dans d'autres universités,
c'est déjà passé. Oui, ça fait quelques mois que ça passe de plus en plus dans des universités. Mm-hmm. C'est une tendance nationale, mais c'est important que ça passe aussi à l'université Paul Valéry. Et quelque chose qu'on a pu avoir en plus, qui n'est pas du tout acquis dans d'autres universités, c'est 4 jours d'absence pour d'autres motifs qui ne sont pas forcément liés aux troubles menstruels ou aux règles douloureuses. Voilà. Et donc ça, c'était pour Paul Valéry. Mais à l'université de Montpellier, la situation est différente parce que c'est aussi un combat qu'on mène depuis plusieurs années. On demande à chaque fois à la présidence et puis il y avait toujours une fin de non-recevoir. Et là, étrangement, il y a quelques semaines, on en reparle et ils nous disent qu'ils travaillent dessus pour la rentrée 2025 sans nous consulter.
Ah oui, c'est vrai. C'est vous qui avez demandé,
voilà,
justement.
Voilà, c'est ça.
Et sans nous consulter. Mais ça, vous savez, dans les gouvernements, on a l'habitude. Ah ouais. Hein, vous rappelez la réforme des retraites, peut-être. On consulte tout le monde, sauf les syndicats,
sauf
par exemple.
Sauf les concernés. Voilà, non, nous, on déplore ce manque de dialogue social. Mais le pire dans ça, c'est qu'ils veulent faire passer un congé menstruel au rabais parce que nous, on considère que ça n'en est même pas un puisqu'il nécessiterait un justificatif médical pour pouvoir y accéder. Alors que c'est pas une pathologie, en fait, d'avoir des règles douloureuses
de dysménorrhée. En principe, ça arrive assez souvent.
Ah, voilà, c'est ça. Nous, l'INSERM estime qu'il y a une personne sur deux menstruée qui subit ce genre de douleur. Donc, ça doit pas être soumis à un justificatif médical, d'autant plus quand on sait la difficulté d'accès parfois aux soins.
Et oui, alors écoutez, tout ça, c'est global. Et on aimerait vous avoir à nouveau, peut-être avec un de vos camarades ou une de vos camarades, afin de parler encore de tout ce qui se passe. Et puis, on prépare déjà la rentrée 2025, hein, c'est aussi, c'est sûr, hein, faut toujours être en avance un peu,
si on veut obtenir
des résultats. Merci en tout cas au SCUM.
Eh ben, merci à vous.
Et puis à très bientôt.
À très vite, je l'espère.